La guerre des Gaules, écrit par Aulus Hirtius, traduit en 1926 par Léopold Albert Constance. Cette lecture d'aujourd'hui est tirée du Corpus Scriptorum Latinorum en date du 28 juin 2009. Deuxième partie de 3 du livre 8. 19. Les escadrons avaient pris chacun position et n'engageaient que de petits groupes qui se relayaient en évitant de laisser prendre de flanc les combattants. Alors, tandis que Choréos luttait, les autres sortent des bois. De vifs combats s'engagent dans deux directions. L'action se prolongeant sans décision, le gros des fantassins, en ordre de bataille, sort peu à peu des bois. Il força nos cavaliers à la retraite. Mais ceux-ci sont promptement secourus par l'infanterie légère qui, je l'ai dit, avait été envoyée en avant des légions. Et, mêlée à nos escadrons, elle combat de pied ferme. Pendant un certain temps, on lutte à armes égales. Puis, comme le voulait la loi naturelle des batailles, ceux qui avaient été les premiers attaqués ont le dessus par cela même que l'embuscade ne leur avait causé aucun effet de surprise. Sur ces entrefaites, les légions approchent et, simultanément, les nôtres et l'ennemi apprennent par de nombreux agents de liaison que le général en chef est là, avec des forces toutes prêtes. À cette nouvelle, nos cavaliers, que rassure l'appui des cohortes, déploient une vigueur extrême, ne voulant pas avoir à partager avec les légions, s'ils ne mènent pas l'action assez vivement, l'honneur de la victoire. Les ennemis, eux, perdent courage et cherchent de tous côtés par quel chemin fuir. Vainement, le terrain dont ils avaient voulu faire un piège pour les Romains devenait un piège pour eux. Battus, bousculés, ayant perdu la plus grande partie des leurs, ils réussissent néanmoins à s'enfuir en désordre. Les uns gagnant les bois, les autres la rivière. Mais tandis qu'ils fuient, les nôtres, au cours d'une vigoureuse poursuite, les achèvent. Cependant, Choréos, que nul malheur n'abat, ne se résout point à abandonner la lutte et à gagner les bois. Et il ne cède pas davantage aux sommations des nôtres qui l'invitent à se rendre. Mais, combattant avec un grand courage et nous blessant beaucoup de monde, il finit par obliger les vainqueurs, emportés par la colère, à l'accabler de leurs traits. 20. Ainsi venait de se terminer l'affaire quand César arriva sur le champ de bataille. Il pensa qu'après un tel désastre, l'ennemi, lorsque la nouvelle lui en parviendrait, ne resterait plus dans son camp, dont la distance au lieu du carnage n'était, disait-on, que d'environ 8 000. Aussi, bien que la rivière lui opposât un obstacle sérieux, il la fait passer par son armée et marche en avant. Les Bélovaques et les autres peuples voient soudain arriver, en petit nombre et blessés, les quelques fuyards que les bois avaient préservés du massacre. Devant un malheur aussi complet, apprenant la défaite, la mort de Choréos, la perte de leur cavalerie et de leurs meilleurs fantassins, ne doutant pas que les Romains approchent, ils convoquent sur le champ l'assemblée au son des trompettes et proclament qu'il faut envoyer à César des députés et des otages. 21. Tous approuvent la mesure, mais comme Mios, l'atrébate, s'enfuit auprès des Germains, à qui il avait emprunté des auxiliaires pour cette guerre, les autres envoient immédiatement des députés à César. Ils lui demandent de se contenter d'un châtiment que, sans aucun doute, étant donné sa clémence et sa bonté, s'il était en son pouvoir de l'infliger sans combat, à des ennemis dont les forces seraient intactes, il ne leur ferait jamais subir. les forces de cavalerie des Bélovaques ont été anéanties. Plusieurs milliers de fantassins d'élite ont péri, à peine si ont pu s'échapper ceux qui ont annoncé le désastre. Toutefois, ce combat a procuré aux Bélovaques un grand bien. Pour autant que pareil malheur en peut comporter. Choréos, auteur responsable de la guerre, agitateur du peuple, a été tué. Jamais, en effet, tant qu'il a vécu, le pouvoir du Sénat ne fut aussi fort que celui de la plèbe ignorante. 22. À ces prières des députés, César répond en leur rappelant que l'année précédente, les Bélovaques sont entrés en guerre en même temps que les autres peuples de la Gaule et que, seuls entre tous, ils ont persévéré avec opiniâtreté sans que la reddition des autres les ramenât à la raison. Il sait fort bien que la responsabilité des fautes se met très volontiers au compte des morts. Mais en vérité, personne n'est assez puissant pour pouvoir faire naître la guerre et la conduire contre le gré des chefs, malgré l'opposition du Sénat et la résistance de tous les gens de bien, avec le seul concours d'une plèbe sans autorité. Néanmoins, il se contentera du châtiment qu'ils se sont eux-mêmes attirés. 23. La nuit suivante, les députés rapportent aux leurs la réponse obtenue. Ils rassemblent les otages nécessaires. Les députés des autres peuples, qui guettaient le résultat de l'ambassade des Bélovaques, se précipitent. Ils donnent des otages, exécutent les conditions imposées. Seul Commios s'abstient, car il avait trop peur pour confier à qui que ce fût son existence. C'est qu'en effet, l'année précédente, Titus Labienus, en l'absence de César qui rendait la justice dans la Gaule si terrière, ayant appris que Commios intriguait auprès des cités et formait une coalition contre César, crut qu'il était possible d'étouffer sa trahison sans manquer aucunement à la loyauté. Comme il ne pensait pas qu'il vînt au camp, si on l'y invitait, il ne voulut pas éveiller sa défiance en essayant, et envoya Caius Volusenus Quadratus avec mission de le tuer sous le prétexte d'une entrevue. Il lui adjoignit des centurions spécialement choisis pour cette besogne. L'entrevue avait lieu et Volusenus, c'était le signal convenu, venait de saisir la main de Commios. Mais le centurion, soit qu'il fût troublé par ce rôle nouveau pour lui, soit que les familiers de Commios l'eussent promptement arrêté, ne put achever sa victime. Le premier coup d'épée qu'il lui donna lui fit néanmoins une blessure grave à la tête. De part et d'autre, on avait dégainé, mais chacun songea moins à combattre qu'à se frayer un passage pour fuir. Les nôtres, en effet, croyaient que Commios avait reçu une blessure mortelle, et les Gaulois, comprenant qu'il y avait un piège tendu, craignaient que le danger fût au-delà de ce qu'ils voyaient. À la suite de cette affaire, Commios, disait-on, avait résolu de ne jamais se trouver en présence d'aucun Romain. 24. Vainqueur des nations les plus belliqueuses, César, voyant qu'il n'y avait plus aucune cité qui préparât une guerre de résistance, mais qu'en revanche nombreux étaient les habitants qui abandonnaient les villes, désertait les campagnes pour éviter d'obéir aux Romains, décide de répartir son armée dans plusieurs régions. Il s'adjoint le questeur Marcus Antonius avec la 12e légion. Il envoie le légat Laius Fabius avec 25 cohortes à l'autre extrémité de la Gaule, parce qu'il entendait dire que là-bas certains peuples étaient en armes, et que les deux légions du légat Laius Caninius et Rebilius, qui étaient dans ces contrées, ne lui paraissaient pas assez solides. Il appelle Titus Labienus auprès de lui, la 15e légion, qui avait passé l'hiver avec ce dernier. Il l'envoie dans la Gaule, qui jouit du droit de cité, pour assurer la protection des colonies de citoyens romains. Voulant ainsi éviter qu'une descente de barbares ne leur infligeât un malheur semblable à celui qu'avaient subi l'été précédent, les Tergestins, qui avaient été brusquement attaqués et pillés par eux. De son côté, il part pour ravager et saccager le pays d'Ambiorix. Ayant renoncé à l'espoir de réduire ce personnage, bien qu'il l'eût contraint de trembler et de fuir, il jugeait que son honneur exigeait au moins cette satisfaction. Faire de son pays un désert, y tout détruire, hommes, maisons, bétail, si bien qu'Ambiorix, abhorré des siens, si le sort permettait qu'il en restât, n'eut plus aucun moyen, en raison de tels désastres, de rentrer dans sa cité. 25. Il dirigea sur toutes les parties du territoire d'Ambiorix, soit des légions, soit des auxiliaires, et massacrant, incendiant, pillant, portant partout la désolation, un grand nombre d'hommes furent tués ou faits prisonniers. Il envoie ensuite Labienus avec deux légions chez les Trévires. Ce peuple, à cause du voisinage de la Germanie, était entraîné à la guerre, qu'il faisait quotidiennement. Sa civilisation primitive et ses mœurs barbares le faisaient assez semblable aux Germains, et il n'obéissait jamais que sous la pression d'une armée. 26. Sur ces entrefaites, le légat Laius Caninius, informé qu'une grande multitude d'ennemis s'était rassemblée dans le pays des Pictons par une lettre et des messagers de Duratios, qui était resté constamment fidèle à l'amitié des Romains, alors qu'une partie assez importante de sa cité avait fait défection, se dirigea vers la ville de Lemonum. En approchant, il eut par des prisonniers des informations plus précises. Plusieurs milliers d'hommes, conduits par Dumnacos, chef des Andes, assiégeaient Duratios dans Lemonum. N'osant pas risquer dans une rencontre des légions peu solides, il campa sur une forte position. Dumnacos, ayant appris l'arrivée de Caninius, tourne toutes ses forces contre les légions et entreprend d'attaquer le camp romain. Après y avoir vainement employé plusieurs jours sans arriver, malgré de gros sacrifices à enlever aucune partie des retranchements, il revient assiéger Lemonum. 27. Dans le même temps, le légat Caius Fabius, tandis qu'il reçoit la soumission d'un grand nombre de cités et la sanctionne en se faisant remettre des otages, apprend par une lettre de Caninius ce qui se passe chez les Pictons. À cette nouvelle, il se porte au secours de Duratios. Mais Dumnacos, en apprenant l'approche de Fabius, pensa qu'il était perdu s'il devait à la fois subir l'attaque des Romains, de Caninius, et celle d'un ennemi du dehors, tout en ayant à surveiller et à redouter les gens de Lemonum. Il se retire donc sur le champ et juge qu'il ne sera en sûreté que lorsqu'il aura fait passer ses troupes de l'autre côté de la Loire, fleuve qu'on ne pouvait franchir, en raison de sa largeur, que sur un pont. Fabius n'était pas encore arrivé en vue de l'ennemi et n'avait pas encore fait sa jonction avec Caninius. Cependant, renseigné par ceux qui connaissaient le pays, il s'arrêta de préférence à l'idée que l'ennemi, poussé par la peur, gagnerait la région qu'effectivement il gagnait. En conséquence, il se dirige avec ses troupes vers le même pont et ordonne aux cavaliers de se porter en avant des légions, mais en conservant la possibilité de revenir au camp commun sans avoir à fatiguer leurs montures. Ils se lancent à la poursuite de Dumnacos, conformément aux ordres reçus, surprenant son armée en marche et se jetant sur ces hommes en fuite, démoralisés, chargés de leurs bagages, ils en tuent un grand nombre et font un important butin. Après cette heureuse opération, ils rentrent au camp. 28. La nuit suivante, Fabius envoie en avant sa cavalerie avec mission d'accrocher l'ennemi et de retarder la marche de l'armée entière en attendant son arrivée. Pour assurer l'exécution de ses ordres, Quintus Attius Varus, préfet de la cavalerie, homme que son courage et son intelligence mettaient hors de pair, exhorte ses troupes et, ayant rejoint la colonne ennemie, place une partie de ses escadrons sur des positions propices, tandis qu'avec les autres, il engage un combat de cavalerie. Les cavaliers ennemis luttent avec une particulière audace, car ils se sentent appuyés par les fantassins. Ceux-ci, en effet, d'un bout à l'autre de la colonne, font halte et se portent contre nos cavaliers au secours des leurs. La lutte est chaude. Nos hommes, qui méprisaient un ennemi vaincu la veille et qui savaient que les légions suivaient à peu de distance, pensant qu'ils se déshonoreraient s'ils cédaient et voulant que tout le combat fût leur œuvre, luttent avec le plus grand courage contre l'infanterie. Quant à l'ennemi, fort de l'expérience de la veille, il s'imaginait qu'il ne viendrait pas d'autres troupes, et il croyait avoir trouvé une occasion d'anéantir notre cavalerie. 29. Comme on luttait depuis un certain temps avec un acharnement extrême, Dumnakos met ses troupes en ordre de batailler, de telle sorte qu'elles puissent protéger les cavaliers en se relayant régulièrement. Soudain apparaissent, marchant en rang serré, les légions. À cette vue, le trouble s'empare des escadrons ennemis. La ligne des fantassins est frappée de terreur, et tandis que la colonne des bagages est en pleine confusion, ils s'enfuient de tous côtés en poussant de grands cris dans une course éperdue. Nos cavaliers qui, tout à l'heure, quand l'ennemi tenait bon, s'étaient battus en brave, maintenant, dans l'ivresse de la victoire, font entendre de toutes parts une immense clameur et enveloppent l'ennemi qui se dérobe. Tant que leurs chevaux ont la force de poursuivre et leurs bras celle de frapper, ils tuent sans cesse. Plus de 12 000 hommes, qu'ils eussent les armes à la main ou les eussent jetés dans la panique, sont massacrés et l'on capture tout le convoi des bagages. 30. Comme on savait qu'après cette déroute, le Sénon Drapès, qui, dès le début du soulèvement de la Gaule, avait rassemblé de toutes parts des gens sans aveu, appelés les esclaves à la liberté, fait venir à lui les bannis de toutes les cités, accueillit les voleurs et interceptait les convois de bagages et de ravitaillement des Romains, comme on savait que ce Drapès avait formé, avec les restes de l'armée en fuite, une troupe atteignant au plus 2 000 hommes et marchait sur la province, qu'il avait pour complice le cadurque Lucterios, qui, au début de la révolte gauloise, s'était proposé, comme on l'a vu dans le commentaire précédent, d'envahir la province, le légat Caninius se lança à leur poursuite avec 2 légions, ne voulant pas que la province eût à souffrir ou que la peur s'emparât d'elle, et qu'ainsi nous fussions déshonorés par les brigandages d'une bande criminelle. 31. Caius Fabius, avec le reste de l'armée, part chez les Carnutes et les autres peuples dont il savait que les forces avaient été très éprouvées dans le combat qu'il avait livré à Dumnakos. Il ne doutait pas, en effet, que la défaite qui venait de leur être infligée ne dût les rendre moins fiers, mais non plus que, s'il leur en laissait le temps, ils ne pussent, excités par ce même Dumnakos, relever la tête. En cette occurrence, Fabius eut la chance de pouvoir procéder, dans la soumission des cités, avec la plus heureuse promptitude. Les Carnutes, qui, bien que souvent éprouvés, n'avaient jamais parlé de paix, donnent des otages et se soumettent. Les autres cités, situées aux confins de la Gaule, touchant à l'océan, et qu'on appelle armoricaines, entraînées par l'exemple des Carnutes, remplissent sans délai, à l'approche de Fabius et de ses légions, les conditions imposées. Dumnacos, chassé de son pays, dut, errant et se cachant, aller chercher un refuge dans la partie la plus retirée de la Gaule. 32. Mais Drapès, et avec lui Lucterios, sachant que Caninius et ses légions étaient tout proches, et se pensant certainement perdus s'ils pénétraient sur le territoire de la province avec une armée à leur trousse, n'ayant d'ailleurs plus la possibilité de battre librement la campagne en commettant des brigandages, s'arrête dans le pays des Cadurques. Lucterios y avait joui autrefois, avant la défaite, d'une grande influence sur ses concitoyens, et maintenant même ses excitations à la révolte rencontraient auprès de ses barbares un grand crédit. Il occupe avec ses troupes et celles de Drapès la ville d'Uxellodunum, qui avait été dans sa clientèle. C'était une place remarquablement défendue par la nature. Il en gagne à sa cause les habitants. 33. Caius Caninius y vint tout aussitôt, se rendant compte que de tous côtés la place était défendue par des rochers à pic, dont l'escalade, même en l'absence de tout défenseur, était difficile pour des hommes portant leurs armes. Voyant d'autre part qu'il y avait dans la ville une grande quantité de bagages, et que si l'on essayait de fuir secrètement en les emportant, il n'était pas possible d'échapper non seulement à la cavalerie, mais aux légionnaires même, il divisa ses cohortes en trois corps et les établit dans trois camps placés sur des points très élevés. En partant de là, il entreprit de construire peu à peu, selon ce que permettaient ses effectifs, un retranchement qui faisait le tour de la ville. 34. À cette vue, ceux qui étaient dans la ville, tourmentés par le tragique souvenir d'Alésia, se mirent à craindre un siège du même genre. Lucterios, qui avait vécu ces heures-là, était le premier à rappeler qu'il fallait se préoccuper d'avoir du blé. Les chefs décident donc, à l'unanimité, de laisser là une partie des troupes et de partir eux-mêmes, avec des soldats sans bagages, pour aller chercher du blé. Le plan est approuvé et la nuit suivante, laissant 2000 soldats dans la place, Drapès et Lucterios emmènent les autres. Ils ne restent que quelques jours absents et prennent une grande quantité de blé sur le territoire des Cadurques, dont une partie désirait les aider en les ravitaillant, et l'autre ne pouvait les empêcher de se pourvoir. Ils font aussi, plus d'une fois, des expéditions nocturnes contre nos postes. Pour ce motif, Caninius ne se presse point d'entourer toute la place d'une ligne fortifiée. Il craignait qu'une fois achevé, il ne lui fût impossible d'en assurer la défense, ou que, s'il établissait un grand nombre de postes, ils n'eussent que de trop faibles effectifs. 35. Après avoir fait une ample provision de blé, Drapès et Lucterios s'établissent à un endroit qui n'était pas à plus de 10 000 de la place et d'où ils se proposaient d'y faire passer le blé peu à peu. Ils se répartissent la tâche. Drapès reste au camp pour en assurer la garde avec une partie des troupes. Lucterios conduit le convoi vers la ville. Arrivé aux abords de la place, il dispose des postes de protection et, vers la 10e heure de la nuit, entreprend d'introduire le blé en prenant à travers bois par d'étroits chemins. Mais les veilleurs du camp entendent le bruit de cette troupe en marche, On envoie des éclaireurs qui rapportent ce qui se passe. Et Caninius, promptement, avec les cohortes qui étaient sous les armes dans les postes voisins, charge les pourvoyeurs aux premières lueurs du jour. Ceux-ci, surpris, prennent peur et s'enfuient de tous côtés vers les troupes de protection. Dès que les nôtres aperçoivent ces dernières, la vue d'hommes en armes accroît encore leur ardeur et ils ne font pas un seul prisonnier. Luc Thérios réussit à s'enfuir avec une poignée d'hommes, mais il ne rentre pas au camp. 36. Après cette heureuse opération, Caninius apprend par des prisonniers qu'une partie des troupes est restée avec Drapès dans un camp qui n'est pas à plus de 12 000. S'étant assuré du fait par un grand nombre de témoignages, il voyait bien que, puisque l'un des deux chefs avait été mis en fuite, il serait facile de surprendre et d'écraser ceux qui restaient. Mais il n'ignorait pas non plus que ce serait une grande chance si aucun survivant n'était rentré au camp et n'avait apporté à Drapès la nouvelle du désastre. Néanmoins, comme il ne voyait aucun risque à tenter la chance, il envoie en avant vers le camp ennemi toute la cavalerie et les fantassins germains, qui étaient d'une agilité extrême. Lui-même, après avoir réparti une légion dans les trois camps, emmène l'autre en tenue de combat. Arrivé à peu de distance des ennemis, les éclaireurs dont il s'était fait précéder lui apprennent que, selon l'usage ordinaire des barbares, ils ont laissé les hauteurs pour établir leur camp sur les bords de la rivière. Les Germains et les cavaliers n'en sont pas moins tombés sur eux à l'improviste et ont engagé le combat. Fort de ces renseignements, il y mène sa légion en armes et rangée pour la bataille. Les troupes, à un signal donné, surgissant de toutes parts, occupent les hauteurs. Là-dessus, les Germains et les cavaliers, à la vue des enseignes de la légion, redoublent d'ardeur. Sans désemparer, les cohortes de tous côtés se précipitent. Tous les ennemis sont tués ou pris, et l'on fait un grand butin. Drapès même est fait prisonnier au cours de l'action. 37. Caninius, après cette affaire si heureusement menée, sans qu'il eût presque aucun blessé, retourne assiéger les gens d'Uxellodunum, et débarrassé maintenant de l'ennemi extérieur, dont la crainte l'avait jusque-là empêché de disperser ses forces dans des postes et d'investir complètement la place, il ordonne qu'on travaille partout à la fortification. Laius Fabius arrive le lendemain avec ses troupes et se charge d'un secteur d'investissement. Fin de la deuxième partie de 3 du livre 8.